Le journal Sophie Delpont. Bonjour Sophie.
Bonjour Caroline, bonjour à tous. Plusieurs centaines de milliers de personnes dans les rues d'Alger hier ont manifesté pour un rassemblement massif intitulé « La marche des 20 millions » et organisé pour protester contre la candidature du président Abdelaziz Bouteflika à un cinquième mandat consécutif. Reportage dans le cortège à Alger avec Leïla Berato.
Et dans ce journal, vous irez aussi en Syrie où des femmes ont manifesté hier pour la Journée internationale des droits des femmes. Reportage à suivre de notre envoyé spécial Aurélien Cole.
Nous irons ensuite au Venezuela où la gigantesque coupure d'électricité continue de plonger le pays dans le chaos survenu jeudi après-midi. Nous irons donc avec notre correspondant à Caracas, Benjamin Delisle. En France, les Gilets jaunes espèrent un acte décisif pour ce 17e samedi consécutif de contestation, alors que votre invitée Caroline va nous parler du grand débat national.
Un grand débat national qui dure depuis deux mois, qui doit se clore le 15 mars, soit la semaine prochaine. Alors quel bilan tirer de cette expérience inédite et que va-t-il se passer maintenant? On posera la question à l'un des cinq garant de ce grand débat national, l'ancien patron de la RATP et de la Poste, Jean-Paul Bailly.
Nous donnerons aussi la parole dans ce journal aux assistantes maternelles, ces gilets roses qui défilent aussi aujourd'hui pour réclamer l'abandon de la baisse de leurs allocations chômage en cas de revenus trop bas pour vivre dignement. En Algérie, plusieurs centaines de milliers de personnes ont défilé dans le centre de la capitale hier. Pour la troisième semaine consécutive, des manifestations ont eu lieu aussi dans tout le pays pour réclamer de tourner la page de l'époque Bouteflika et dire non à un cinquième mandat du président algérien. Dans la capitale, il y avait beaucoup de femmes et d'enfants. C'est un reportage de Leïla Berato.
L'appel avait été lancé aux femmes pour qu'elles participent aussi à la manifestation. Elles ont répondu présentes et sont venues avec les plus jeunes. Hamida et Fifi ont 14 et 15 ans et c'est leur première manifestation.
Il y a du monde quand même. Tout le monde crie et tout. Ça fait peur un peu, mais ça va. Et je suis d'accord avec les manifestations et tout parce que on a besoin d'un autre président et tout parce que ça va pas du tout. Même aux écoles et tout, ça va pas du tout.
Nous sommes contre la cinquième mandat.
Des centaines de milliers de personnes défilent tout le long de l'après-midi en chantant des slogans pour un changement de système politique. Près de l'école des Beaux-Arts d'Alger, le cortège est bloqué par les forces de l'ordre qui utilisent du gaz lacrymogène. Aouicha s'est réfugié dans une rue et regarde de loin.
C'est vrai qu'on n'a pas accès, on ne peut pas aller plus loin. J'ai rien compris pour ça, réellement. Parce que réellement, c'est pour une bonne cause qu'on est là. On est pour une bonne cause et tout le monde pour la même chose.
Sur le côté de l'avenue, Souila, accompagnée de ses enfants, regarde elle aussi les manifestants qui continuent d'affluer.
J'espère que le pouvoir a entendu le signal d'alarme à la population.
En fin de journée, alors que les manifestants rentrent chez eux, d'immenses embouteillages se créent à la sortie de la ville. Dans le centre, des affrontements ont lieu avec les forces de l'ordre.
À Alger, la correspondante de France Culture, Leïla Berato. Le pouvoir tient encore, mais il est en train de vaciller, selon Naoufel Brahimi El-Mili. Il est politologue, enseignant à Sciences Po Paris, auteur du livre France-Algérie, 50 ans d'histoire secrète. Il répond aux questions de Valérie Crova.
On a tous les poids lourds qui sont aux côtés de Bouteflika. Je parle du FLN, premier parti historique, du RND, deuxième parti, de l'UGTA, la centrale syndicale, des mouvements des anciens moujahidines, l'Union de la femme algérienne et surtout les Zaouia, ces confréries islamiques qui ont fait un maillage dans l'Algérie profonde extraordinaire. Je les appelle les grands électeurs. Les grands électeurs sont en sa faveur. On ne peut pas désavouer le levier du pouvoir en Algérie. Et comme en Algérie, la notion de droit est une notion jeune, on va respecter un minimum de forme et ce droit-là n'interdit pas à Bouteflika d'être candidat. Comme tout citoyen, il va déposer son dossier de candidature qui sera validé par le Conseil constitutionnel. On ne connaît pas encore les autres candidats qui seront. Est-ce qu'ils vont accepter de faire de la figuration parce que le pouvoir algérien ne sait pas perdre les élections. La seule fois où le pouvoir algérien a perdu les élections, c'était en décembre 91, en faveur du fils, et on connaît la suite.
Le fils pour Front islamique du salut, avec ses massacres qui ont fait plus de 100 000 morts et 200 000 à 300 000 blessés dans les années 90. Alors que l'opposant et homme d'affaires algérien Rachid Nekaz va être déféré aujourd'hui devant un procureur à Genève pour violation de domicile, après avoir fait irruption dans l'hôpital où se trouve actuellement le président Abdelaziz Bouteflika en Suisse, a annoncé la police à Genève. Nous partons maintenant en Syrie où les forces démocratiques syriennes encerclent toujours les derniers combattants de Daesh dans le village de Baghouz. Leur offensive a été ralentie toute cette semaine par la présence de civils à l'intérieur de cette dernière enclave. 7000 personnes, essentiellement des civils, en sont sorties toute la semaine, mais il reste encore à l'intérieur des familles de djihadistes qui ne veulent pas sortir, aux côtés de près d'un millier de combattants de l'État islamique prêts à mourir. Les FDS temporisent pour tenter d'obtenir la sortie de ces derniers civils. Hier, leurs troupes ont célébré la journée mondiale des femmes qui forment aussi leur rang, avec même des Européennes parmi elles, Aurélien Nicoli.
Soussa, dernière ville avant Baghouz, rue principale éventrée, maison affaissée. Ici, les combats ont été particulièrement violents pour repousser Daesh dans son dernier réduit. Mais hier, on célébrait les femmes, les combattantes kurdes qui ont participé à cette bataille. C'était très long, très difficile. Ils avaient tout miné, mais il n'y a pas de victoire facile, explique Sama, la vingtaine. Kalachnikov en bandoulière, entourée de son unité, uniquement des femmes. Un peu plus loin, une allemande, une italienne et une française qui se confient à condition de pouvoir garder l'anonymat.
C'est pour soutenir le peuple kurde, ce peuple qui se bat depuis des années, des années, des années. Et l'admiration pour toutes ces femmes qui, malgré toutes les blessures qu'elles ont pu avoir, continuent de se battre pour la libération et la reconnaissance du peuple kurde et de sa zone.
Féministe, internationaliste, celle qui se fait appeler Eva Lasmine vient du sud de la France. Elle ne participe pas directement au combat. Elle ne s'est pas engagée non plus contre Daesh.
Daesh, c'est une voix qui refait ce schéma d'oppression sur les femmes. Du coup, pour moi, ça n'a pas de sens. Mais c'est aussi intéressant de savoir que ces femmes, à la base, ne se sentaient pas bien dans ce système et ont cherché une alternative. Et ont trouvé, malheureusement, la pire qu'il y a en ce moment.
Une réalité qui interroge Eva Lasmine, qui voudrait maintenant pouvoir discuter avec l'une de ces Françaises ayant rejoint Daesh, juste pour comprendre, explique-t-elle.
Un doublage des interviews pour garantir l'anonymat des témoins réalisé par Aurélien Colli, notre envoyé spécial en Syrie. La ville de Soussa, où se déroule ce reportage, se trouve juste en bordure du front de la ville de Baghouz. C'est la dernière étape, encore aux mains des djihadistes, donc à quelques kilomètres du front. Nous avons entendu ce reportage.
Le Venezuela dans le chaos depuis la gigantesque coupure électrique de ce jeudi.
C'est la pire coupure d'électricité qu'ait connue le pays. Au moins 22 États, dont la quasi-totalité du territoire, étaient paralysés encore hier. Une coupure particulièrement difficile alors que le pays vit déjà une crise économique sans précédent. Le FMI, le Fonds monétaire international, prévoit une inflation d'au moins 10 millions de pourcents en 2019. Beaucoup de Vénézuéliens ont préféré se rassembler sur des places plutôt que de rester chez eux hier en attendant que le courant revienne. Le reportage à Caracas de notre correspondant Benjamin Delisle.
Il est presque midi sur une place de l'Est de Caracas. Cela fait 18 heures que la ville n'a plus de courant. Toute la capitale est paralysée, selon Cadare, une habitante d'un quartier populaire.
Tous les commerces sont fermés. Beaucoup de gens n'ont pas pu aller au travail. Les transports sont coupés, notamment le métro de Caracas.
Non seulement les Vénézuéliens ne peuvent plus rien faire dehors, mais à en croire Elisabeth, une retraitée, plus rien ne fonctionne non plus chez eux.
Nous n'avons plus d'eau à cause de la coupure de courant. On doit jeter la nourriture qu'on ne peut pas garder. Les gens sont très en colère. Ils n'ont déjà pas de quoi s'acheter à manger. Et là, ils doivent tout jeter.
Pour expliquer la coupure, le gouvernement parle d'un sabotage dans l'une des principales centrales électriques du pays. Mais ça ne convainc pas Elisabeth.
Moi, je crois plutôt les ingénieurs électriques qui avaient prédit que le manque d'entretien du réseau allait entraîner ce genre de coupure.
Dans la rue, les insultes fusent contre le président Nicolas Maduro et son administration. Cela donne une motivation supplémentaire à Karen, 50 ans, pour aller manifester avec l'opposition ce samedi.
Moi, ça me donne encore plus envie de lutter, d'aller dehors, de travailler et de tout faire pour sortir de ce cauchemar.
Sabotage ou pas, l'ampleur de cette coupure de courant témoigne de l'état déplorable des infrastructures vénézuéliennes et cela n'annonce rien de bon pour les semaines qui viennent.
Le 17e week-end de mobilisation des Gilets jaunes. Plusieurs rassemblements sont prévus dans plusieurs grandes villes comme Lille, Bordeaux, Toulouse et dans de plus petites communes aussi comme Foix en Ariège ou encore Périgueux en Dordogne. À Paris, le cortège doit partir à 11h des Champs-Élysées pour arriver au jardin du Luxembourg. Par ailleurs, un appel à camper 3 jours dans la capitale a été lancé sur Facebook. Une mobilisation sur tout le week-end pour discuter et réfléchir à la suite de la mobilisation, explique Loïc, Gilet jaune de l'Essonne, mobilisé depuis le début du mouvement le 17 novembre dernier, est déjà présent hier soir à Paris.
Ça fait plusieurs temps qu'on se structure sur le local. Là, le but, c'est justement d'amener les gens de toute la France à se réunir et à essayer de voir ensemble ce qu'on peut faire, notamment le week-end. Parce qu'en général, la semaine, chacun est dans son coin. Le samedi, quand on se rejoint, tout le monde a discuté dans son coin. Et au final, c'est difficile d'arriver à quelque chose de concret sur place. Donc là, le but, c'est vraiment d'unir les gens, s'assurer qu'on soit tous sur la même longueur d'onde et qu'on ait envie des mêmes résultats, en fait. Quand on fait un rassemblement, un mouvement ou une manifestation, l'idéal, c'est d'avoir un mot d'ordre afin d'être entendu sur chaque thème. Parce que le problème, il est là, c'est qu'en fait, tout le monde connaît nos revendications, mais le fait qu'elles soient un petit peu dispersées lors d'une manifestation, on a l'impression qu'en fait, on est là pour tout et n'importe quoi. Donc le but, c'est aussi de définir, entre guillemets, des thèmes sur chaque mobilisation afin d'être plus pertinent et plus constructif, sachant que quoi qu'il arrive, la semaine, sur le local, chacun fait ses actions de toute façon. Le truc, c'est que quand on se réunit le samedi et qu'on est censé être tous ensemble, il faut qu'on marche du même pas.
Loïc répondait à Delphine Evenoux et retrouvez sur franceculture.fr l'émission Grand Reportage, Gilets jaunes, le dialogue impossible et une vidéo sur les étapes de la contestation depuis le 17 novembre dernier, le premier samedi de la colère jaune.
France Culture, 8h11, suite du journal de Sophie Delpont. D'autres gilets roses, ceux-là, défileront aujourd'hui en France.
Oui, il s'agit des assistantes maternelles. Elles manifestent à l'appel de la CGT et de Force Ouvrière pour conserver leur allocation de retour à l'emploi. Cette allocation leur est versée en cas de chômage partiel. Elles sont plus de 100 000 en France à en bénéficier. Après l'échec des négociations syndicales, Véronique Delettre, secrétaire FO des emplois de la famille, craint que le gouvernement ne décide de la supprimer tout simplement.
Il est sûr qu'elle sera réduite, mais on n'est pas certaine aujourd'hui qu'elle ne soit pas supprimée. Donc pour l'instant, nous sommes dans le doute. On ne sait pas ce qui va réellement se passer cet été. Selon les premiers calculs avancés par le MEDEF, ça pourrait aller jusqu'à 300 euros de perte par mois. C'est énorme pour des salariés qui touchent à peine le SMIC. Aujourd'hui, les négociations ont été rompues, hein, puisque c'est dans les mains de l'État. Donc, il n'y a pas eu d'écoute, on en est au point mort, donc on peut se faire entendre parce que les assistantes maternelles, elles en ont ras-le-bol aujourd'hui d'être considérées comme des moins que rien et elles veulent se faire entendre comme des salariés à part entière. Mais c'est sûr qu'on n'en restera pas là parce qu'il n'y a pas non plus que l'indemnisation pour activité réduite. Moi, j'ai signé pour EFO en 2016 un accord santé au travail, un accord interbranche pour les assistantes maternelles et les salariés du particulier employeur. Et l'État a exclu les assistantes maternelles de cet accord cadre. Donc aujourd'hui, une fois de plus, ce sont des salariés qui n'ont pas accès à la médecine du travail. Et ça, c'est inacceptable.
Des propos cueillis par Bastien Roch pour France Culture. Les organisateurs attendent plus de 5000 participants dans une trentaine de villes en France. Une nouvelle étape dans la tournée de François Hollande. L'ancien président de la République devrait passer 3 jours aux États-Unis avec plusieurs rencontres programmées avec des officiels. Retour sur la scène diplomatique et médiatique avec la réédition de son livre « Les leçons du pouvoir » vendu à 150 000 exemplaires. Ces derniers temps, les prises de parole et les voyages de l'ancien chef de l'État se multiplient. De quoi s'interroger sur ces ambitions, Stephen Goyer.
Au mois de février, François Hollande a d'abord proposé aux lycéens de venir leur parler d'Europe. Le début d'un parcours dans plusieurs établissements scolaires, Vierzon, Nancy ou encore Dreux. Le tout pour évoquer sa vision de l'Europe, une Europe plus politique qu'elle ne l'est aujourd'hui. Alors ces déplacements quelques semaines avant le scrutin ne soulèveraient pas forcément les interrogations si l'ancien président n'avait pas, dans le même temps, rempli son agenda de voyages diplomatiques successifs, puisque ce déplacement aux États-Unis s'ajoute à celui de jeudi dernier au Liban, au cours duquel François Hollande a rencontré le Premier ministre Saad Hariri et le président de la République Michel Aoun, à celui effectué plusieurs jours en Afrique ou encore la visite à Mossoul et au Kurdistan la semaine passée, manière d'entretenir ses réseaux, de se rappeler au bon souvenir de ses anciens homologues. Et puis il y a aussi ses rendez-vous réguliers avec des responsables politiques aussi bien de gauche que de La République En Marche. Mais pas question pour l'instant de parler de retour aux responsabilités. Pourtant, on le sait, on l'a entendu, l'ancien locataire de l'Élysée n'a jamais vraiment fermé la porte à un comeback sur la scène politique nationale. Le temps sans doute de rester à l'affût d'un faux pas de son successeur.
Il pèse plus de 1000 milliards de dollars. Le plus gros fonds souverain au monde, celui de la Norvège, se désinvestit de l'or noir, en tout cas de certaines compagnies pétrolières. Le gouvernement norvégien l'a annoncé hier. L'objectif est de réduire les risques financiers liés à la volatilité des cours du pétrole. Cette décision est donc dictée par des considérations économiques, bien plus qu'environnementales. Il s'agit néanmoins d'un coup porté aux énergies fossiles polluantes qui fera plaisir aux écologistes. Le temps de la pluie sur une large partie du territoire, sur une diagonale, hivernale qui va de la frontière belge jusqu'aux Pyrénées. Alternance de nuages et d'éclaircies sur la Normandie et le nord de la France. Un soleil qui largement dominera le bord de la Méditerranée en revanche. Les températures sont encore très douces. Elles sont comprises ce matin entre 5 et 14 degrés. 5 degrés à Annecy, 6 à Chambéry, 9 à Paris, 11 à Saint-Malo et maximum 14 degrés à Nice.